France Inter.
Bonsoir à tous. Et à la une de ce 23h, les surloyers, cette mesure du projet de loi logement qui ne passe pas. Elle prévoit des hausses automatiques de loyers pour les locataires HLM un peu trop riches. On sera dans les rues de Marseille dans un instant. Dans l'actualité encore, après les étudiants de Sciences Po, autour des lycéens d'appeler au blocage pour Gaza dès lundi. À Valenciennes, 10 hommes condamnés à de la prison ferme pour des rapports sexuels avec une adolescente de 14 ans. On reviendra aussi sur les cyberattaques attribuées à la Russie en Allemagne, et puis l'Argentine qui dégringole dans le classement RSF de la liberté de la presse.
France Inter.
Aussitôt présenté, aussitôt décrié, le projet de loi logement du gouvernement était sur la table du Conseil des ministres ce matin, avec l'ambition de répondre à la crise du logement, sauf qu'il fait bondir les défenseurs du logement social et les principaux concernés, les habitants des HLM. Il y a par exemple cette mesure qui durcit les règles pour les locataires dont les revenus dépassent les plafonds. 1 euro de trop et le loyer augmente automatiquement. 20 euros, c'est l'expulsion dans les rues de Marseille. En tout cas, on apprécie peu cette mesure. Reportage de Maya Baldouro-Fredon.
Tout est calme à la cité Jardin La Blancarde dans le 12e arrondissement. La plupart des habitants sont au travail. Ils gagnent un salaire modeste, mais un revenu quand même. Alors forcément, ce projet de loi...
Ça m'inquiète. Après, moi, je fais des heures supplémentaires pour essayer d'arrondir les fins de mois, etc. Donc je vais arrêter de faire des heures supplémentaires et je vais être à découvert. Et puis quand je ne pourrai pas payer mon loyer, je ne paierai plus mon loyer.
Nous travaillons, nous payons nos loyers. Et si malheureusement, dans un couple, il y a 1 euro qui va dépasser, on va dire, on va payer un surloyer.
Moi, je sais qu'avec ce que j'ai, on ne me prend pas dans le privé. Alors, comment on fait ?
On construit plus de logements sociaux. Ça, c'est la réponse du bailleur, Habitat Marseille-Provence. Et surtout, nous dit le président Patrick Papalardo, on conserve la mixité dans les HLM. 8% seulement de ces locataires se situent au-dessus du plafond.
On ne peut construire, entretenir, réhabiliter que par les revenus locatifs. Si on a une population à risque, on risque d'avoir de gros contentieux et ça peut créer un problème économique.
La région compte 15 000 demandeurs en plus chaque année pour seulement 6 500 logements sociaux neufs.
Un reportage Maya Maldouro-Fredon. Parmi les autres mesures du projet de loi, un pouvoir renforcé pour les maires, notamment dans l'attribution des logements sociaux, ou encore un assouplissement de la loi SRU qui prévoit, vous le savez, des quotas de logements sociaux pour les villes. Ce dernier point est un mauvais signal pour la Fondation Abbé Pierre qui appelle à renforcer la loi SRU plutôt qu'à la détricoter. Le texte sera examiné au Sénat vers la mi-juin. Qui va figurer sur la liste Renaissance pour les européennes du 9 juin ? Ce soir, on connaît le quatuor de tête derrière Valérie Hayer, la tête de liste, les eurodéputés sortants Bernard Guetta, Marie-Pierre Vedrenne et Pascal Canfin, l'ancienne tête de liste 2019, Nathalie Loiseau, elle est en 5e position. Et puis à noter aussi, côté société civile, la présence de Grégory Allion, le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Il est en 8e position. La direction de Sciences Po Lyon annonce ce soir une fermeture administrative jusqu'au 12 mai de l'établissement, malgré l'évacuation par les forces de l'ordre ce matin des étudiants pro-palestiniens qui ont passé la nuit dans l'un des amphithéâtres. À Paris aussi, Sciences Po a été évacué aujourd'hui, tout comme à Saint-Étienne sur un site universitaire. La fermeté est et restera totale, a prévenu Matignon. Mais voilà les lycéens qui s'invitent dans la mobilisation. Des actions sont prévues dès lundi à l'appel de l'USL, l'Union syndicale lycéenne. Son porte-parole était chez nos confrères de France Info ce soir.
Ça va de soi qu'il doit y avoir une convergence entre les étudiants et entre les lycéens. Et donc c'est pour ça qu'on appelle au blocus lundi et mardi pour le cessez-le-feu et pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ça a vocation à se poursuivre. En fait, c'est comme un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier jour avec des lycées qui vont être bloqués et ensuite on va en avoir beaucoup plus au fil du temps. Et c'est comme ça vraiment que nous on voit les choses pour le coup. Oui. Ça fait depuis 7 mois qu'on participe à des conférences, qu'on manifeste ou alors qu'on fait des rassemblements et il ne se passe toujours rien. Il y a toujours 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza. Et donc pour nous, il y a une importance ultime de pouvoir être du bon côté de l'histoire, de se ranger au bon côté de l'histoire et de pouvoir bloquer nos établissements comme ce qu'ont fait les étudiants aux États-Unis et qui après s'est exporté un peu partout dans le monde. Nous, les remontées de terrain qu'on a, elles sont très claires. Hein, c'est qu'il y a une envie de pouvoir se mobiliser parce que les lycéennes et les lycéens ont l'impression de rester les bras croisés face à ce qui se passe. Et donc en fait, nous, on essaie de pouvoir organiser ça en appelant au blocus des établissements. Quand on parle de radicaliser le mouvement en bloquant les lycées, il n'y a pas un seul moment où on parle de violence pour le coup. Nous, la violence, on ne la légitime pas, on veut juste avoir une action symbolique qui est le blocus.
Gwen Thomas Alves, le porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Les manifestants réclament notamment un cessez-le-feu à Gaza. Les négociations reprennent demain au Caire, en Égypte. Le directeur de la CIA est arrivé sur place ce soir. Le Hamas annonce qu'il enverra bien une délégation, tout en accusant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de chercher à entraver les efforts de trêve avec ses menaces d'offensive terrestre à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Moscou pointé du doigt dans les récentes cyberattaques contre plusieurs pays européens. L'Allemagne notamment a été prise pour cible. Ses services gouvernementaux et le secteur de l'armement et de l'aérospatial également. Berlin parle d'attaques inacceptables, Sébastien Baer.
Le parti social-démocrate d'Olaf Scholz a mentionné pour la première fois l'été dernier cette cyberattaque qui a ciblé les messageries électroniques de plusieurs membres de son comité de direction. Les pirates ont, semble-t-il, exploité une faille de sécurité dans Microsoft Outlook. Ils s'en sont pris également à des entreprises des secteurs de la logistique, de l'armement et de l'aérospatial. Plusieurs autres pays européens ont aussi été visés lors de cette même campagne de cyberattaque, la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie et la Suède. APT28, c'est le nom du groupe mis en cause, est actif dans le monde entier depuis au moins 20 ans. Déjà en 2015, les pirates s'en étaient pris au Bundestag et puis deux ans plus tard au Parti démocrate américain juste avant le scrutin présidentiel. À quelques semaines des élections européennes, les autorités allemandes recommandent la plus grande vigilance et promettent que l'attaque ne restera pas sans suite, sans préciser la nature de la riposte envisagée. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Après l'OTAN et l'Union européenne, et malgré le démenti russe, la diplomatie américaine condamne fermement ces attaques. La Russie, qui est en 162e position dans le classement mondial de la liberté de la presse, publié aujourd'hui par Reporters sans frontières, 162 sur 180. Mais c'est surtout l'Argentine qui inquiète cette année. Le pays perd 26 places, en cause notamment les attaques récurrentes du président Javier Milei contre les médias. Caroline Vic est à Buenos Aires.
Corrompus, vendus, ignorants, crétins, les insultes de Milei envers les journalistes sont fréquentes dans ses discours, lors d'interviews et surtout sur les réseaux sociaux. Le président décrit d'ailleurs le journalisme comme étant le pire égout de l'univers. Résultat de ce mépris présidentiel, la violence à l'encontre des journalistes est de plus en plus banalisée. On s'inquiète également des risques de dérive autoritaire avec la fermeture il y a un mois de l'agence de presse argentine Telam et le projet de privatisation de la télévision et de la radio publique. Dans ce contexte, les journalistes tentent de se défendre. Il y a 15 jours, par exemple, un journaliste insulté par Milei de menteur et de corrompu a déposé une plainte contre le président pour injure et a appelé ses confrères à s'unir pour, je cite, « mettre un point aux attaques du gouvernement ». Un climat de violence et de tension donc qui s'ajoute à la situation fragile et précaire des médias en Argentine. Et tout cela 4 mois seulement après l'arrivée au pouvoir du président Milei. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
À noter aussi que la France remonte à la 21e place de ce classement RSF. La Norvège, le Danemark et la Suède sont en tête. Et tout en bas, on trouve l'Afghanistan, la Syrie et l'Érythrée. Ils ne pouvaient pas ignorer l'âge de la victime. C'est ce qu'a estimé le tribunal correctionnel de Valenciennes aujourd'hui en condamnant 10 hommes à des peines de 4 à 10 mois de prison ferme pour avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente de 14 ans. Ils avaient rencontré la jeune fille sur Snapchat ou encore le site Coco. L'avocat de la victime, maître Grégory Frère, est globalement satisfait.
Ce qui est satisfaisant, c'est le fait que l'ensemble des prévenus a été reconnu coupable des faits. Alors, il y a des relaxes partiels sur des périodes de prévention aux encornures, donc certains prévenus sont relaxés sur certains points, mais en réalité, ils sont tous condamnés, tous reconnus coupables des faits qu'ils ont commis à l'encontre de la demoiselle. Donc, c'est déjà une très bonne chose en soi. Après, même en tant qu'avocat des parties civiles, on n'est jamais satisfait d'un délibéré parce que ça ne rattrape jamais le préjudice qui a été réellement subi par la demoiselle. Donc voilà, c'est une condamnation, c'est important pour la justice, c'est important pour la société. Maintenant, ce n'est que le point de départ d'un long chemin pour cette famille et la victime. Maintenant, ce que j'espère aussi, c'est que ces condamnations vont en dissuader d'autres d'avoir recours à de la prostitution mineure ou en tout cas d'avoir des discussions ou des échanges comme ça avec des jeunes filles mineures sur Internet et autres.
Maître Grégory Frère au téléphone d'Hélène Fromanti de France Bleu Nord pour France Inter. Une quarantaine de logements évacués ce soir près de Forbach en Moselle. Un homme armé d'un couteau est retranché dans son appartement à l'hôpital après avoir blessé une personne. Le RAID est sur place. Et pour finir, la rédaction de France France Inter affiche son soutien à Guillaume Meurice. Dans un communiqué ce soir, elle demande son maintien à l'antenne. L'humoriste a été suspendu hier par la direction de Radio France pour avoir répété ses propos polémiques sur Benjamin Netanyahou dans l'émission Le Grand Dimanche Soir. Pour les sociétés des journalistes et producteurs d'Inter, sa convocation en vue d'un éventuel licenciement est inacceptable. C'est un signe très inquiétant pour la liberté d'expression. Fin de citation. La météo.
La météo avec le baume Hydradéfense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Élodie Calac.
Encore des averses ce soir et de nouvelles pluies qui s'invitent par le sud-ouest. Demain, les nuages l'emporteront sur la plupart des régions avec quelques pluies. Des pluies plus copieuses du sud de la Bretagne et des Charentes vers le centre-val de Loire le matin, puis jusqu'à la frontière belge l'après-midi. On trouvera tout de même quelques éclaircies sur les régions voisines de la Manche, de l'est des Pyrénées vers la Méditerranée et le flanc est aussi, et au sud de la Garonne l'après-midi. C'est en Corse que le soleil se montrera le plus. Il fera 5 à 10 degrés le matin, l'après-midi 14 degrés à Rouen et Limoges, 16 à Lille, Paris, Brest, Châteauroux, 18 à Bordeaux et à Dijon, 20 degrés à Strasbourg, Lyon, Toulouse, 21 à Marseille et 22 à Bayonne. Dimanche, pluie ou averses orageuses au menu et des températures en hausse, une moyenne de 18 degrés au nord et de 22 au sud.
Merci Elodie Calac de Météo France, 23h11 sur Inter.